Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour les Naïk Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 6h et c'est l'heure de votre premier journal.
On voit des tout petits qui chantent Tata Yo. Je dis, mais toi, mais tu ne devrais pas connaître cette chanson-là, t'étais pas né, toi. Alors elle me dit, c'est ma tata qui m'a appris. Ce sont les chansons qui restent.
Ali Cordy, Tata Yo-Yo, 92 ans, est décédée hier. C'est l'une des dernières voix du music hall qui s'est éteinte, laissant derrière elle une farandole de tubes inoubliables. Des extraits, évidemment, dans un instant.
Le masque obligatoire partout et tout le temps à Lyon et à Villeurbanne. La justice, comme le préfet, de revoir sa copie.
Parti de droite se cherche un candidat pour 2022. Nous verrons que c'est tout l'enjeu des retrouvailles des Républicains aujourd'hui dans les Yvelines.
Dans ce journal également, avez-vous choisi vos activités pour cette année? Si ce n'est pas le cas, les associations vous attendent dans ce premier week-end de septembre.
Et puis le festival de jazz à la Villette a débuté, moins d'étrangers cette année, mais du coup, une programmation française à découvrir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une part de notre enfance qui s'en est allée avec, bien sûr, la disparition d'Annie Cordy.
Une voix, une gouaille, Annie Cordy, 92 ans, a fait un malaise hier en fin d'après-midi. De la chanteuse belge, on retiendra La Bonne du Curé, Tata Yo-Yo, 700 chansons, dont une quarantaine de tubes aussi populaires qu'enjouées. C'est cela qu'incarnait la chanteuse. Retour sur cette longue carrière avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Sous son grand chapeau, une grande carrière dans la chanson. Annie Cordy débarque de sa Belgique natale à l'âge de 22 ans au Lido à Paris. Elle enchaîne les galas, les tours de chant et vend plus d'un million de disques de son plus grand succès, La Bonne du Curé.
Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées.
Tata Yo-Yo, Chaud Cacao, Frida Papa, des chansons qui traversent les générations pour le plaisir d'Annie Cordy qui se confiait en 2010 au micro d'Europe 1.
On voit des tout petits de 4-5 ans qui chantent Tata Yo-Yo. Je dis, mais toi, mais tu ne devrais pas connaître cette chanson-là, t'étais pas né, toi. Alors elle me dit, c'est ma tata qui m'a appris, c'est mon tonton. Et voilà, c'est ça. Ce sont les chansons qui restent.
Pétillante, piquante, toujours pleine d'énergie, elle tourne au cinéma dans une quarantaine de films, notamment avec Bourville et De Funès, ou dans des rôles plus touchants, dans Le passager de la pluie de René Clément ou La rupture de Claude Chabrol. La France était son pays et la Belgique sa patrie, disait Annie Cordy. Anoblie baronne en 2004, elle restera la reine du musical.
Sont les personnalités qui ont salué, celles qu'on surnommait Nini, Lynn Renaud notamment, ou encore Mireille Mathieu.
Allez, le masque partout et tout le temps, c'est donc terminé à Villeurbanne et à Lyon.
Le préfet du Rhône sommé de revoir sa copie par le tribunal administratif d'ici mardi. Il devra donc rédiger un nouvel arrêté qui ne concernera que les zones à forte densité et aux horaires où ce port du masque est vraiment nécessaire. Un casse-tête juridique que nous décortique Aude Leroy.
En réalité, imposer le port du masque de façon unilatérale et globale est illégal. C'est une atteinte à une liberté fondamentale, celle de circuler librement. Prenez certains quartiers de Lyon, par exemple, à certaines heures, tard le soir, tôt le matin. Ces quartiers sont déserts, donc a priori, pas de risque particulier de propagation du virus. Donc, les préfets doivent être plus précis dans leur arrêté, définir les horaires d'obligation du port du masque. Plus précis aussi sur la géographie, explique Louis Le Foyer de Costil, avocat en droit public.
Il faudra vraiment que les préfets motivent bien leurs arrêtés pour montrer pourquoi dans telle ville ou dans telle rue, je ne sais pas, il y a des EHPAD, il y a des écoles, il y a un cluster, il y a des gens qui sont en contact. Pourquoi c'est nécessaire vraiment en particulier ici et pas là?
Et puis finalement, là où on se pose sans doute le moins de questions, c'est pour Marseille, pour Paris, des villes très denses, en zone rouge. D'ailleurs, pour le moment, tous les recours pour empêcher le port du masque obligatoire à Paris ont été retoqués.
Et pendant ce temps, près de 9000 cas de coronavirus ont été détectés en France ces dernières 24 heures, un nombre record, et 46 personnes ont été admises en réanimation hier.
Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas arrivé jusqu'à 9000. On se demande justement ce matin comment lutter contre la reprise de l'épidémie, notamment sur le plan européen.
On se souvient qu'au printemps, ça avait pas mal cafouillé, chaque pays ayant fermé ou non ses frontières, sauf que l'Europe, ce coup-ci, va peut-être se coordonner. C'est en tout cas le souhait de la France et de l'Allemagne, Isabelle Horry.
La Hongrie a déjà refermé ses frontières. La Belgique, elle a pris des mesures abruptes sans avertir ses voisins. Par exemple, quand elle a placé Paris et les Bouches-du-Rhône sur sa liste rouge. La zizanie menace donc à nouveau. Et c'est pour cela que la Commission européenne propose des critères communs aux 27 États membres pour fixer quelles régions sont vertes, oranges ou rouges à l'avenir. Nombre de cas nouveaux pour 100 000 habitants, taux de tests positifs. L'objectif, c'est d'établir une carte unique au niveau européen. Elle serait actualisée toutes les semaines. Les États devront aussi prévenir des mesures de quarantaine qu'ils mettent en place au moins 7 jours avant. Objectif, plus de clarté pour tous ceux qui se déplacent, explique le commissaire européen Didier Reynders.
Nous venons avec une coordination et avant tout une coordination d'une information claire à l'égard du public, avec des moments de rendez-vous chaque semaine pour qu'une carte soit publiée, que les mesures soient communiquées aux États membres et à la Commission, et puis qu'elles entrent en vigueur au même moment sur l'ensemble du territoire de l'Union.
La France et l'Allemagne font partie de ceux qui ont demandé ces mesures en urgence. Elles vont maintenant être examinées par les 27. Ce sera vraiment un test pour voir si les Européens arrivent à préserver l'espace Schengen. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe.
C'est l'information de la nuit, Lénaïc. Alain Coq, atteint d'une maladie incurable, a annoncé avoir pris son dernier repas.
Il a cessé de s'alimenter, de s'hydrater, de se soigner. Emmanuel Macron et l'ayant pas autorisé à bénéficier d'une aide médicale à mourir. Le chemin de la délivrance commence et croyez-moi, j'en suis heureux. Voilà ce qu'il a déclaré en direct sur son compte Facebook. On l'écoutera dans le journal de 7h.
Un parti de droite cherche candidat pour 2022. C'est l'enjeu des retrouvailles des Républicains à Port-Marly dans les Yvelines aujourd'hui.
L'élection présidentielle est dans tous les esprits et la proposition de Christian Estrosi de soutenir Emmanuel Macron a semé le trouble. Aurélie Herbemont suit cette année la droite pour Europe 1. Plusieurs candidats commencent à sortir du bois, mais celui que la droite attend, c'est surtout François Baroin, qui pourtant n'a pas l'air franchement décidé.
Je crois qu'il n'ira pas, lâche un de ses amis. Depuis des semaines, plus grand monde à droite n'ose espérer François Baroin 2022. Ce militant a fini par se lasser d'attendre.
Ça se voit qu'il n'a pas la volonté. Il ne s'engage pas forcément sur les sujets nationaux en ce moment. Je pense que s'il en avait plus envie, il rentrerait un peu plus sur le ring. Et voilà.
Il faut dire que François Baroin n'envoie guère de cartes postales. Discret pendant la crise du Covid, discret pendant les municipales, au point de décourager ses soutiens. Même Nicolas Sarkozy ne le ménage pas. Une voiture qui n'a pas d'essence ne peut pas aller loin, glisse-t-il à certains élus, pour souligner qu'une présidentielle, il faut y penser matin, midi et soir. L'eurodéputée Nadine Morano comprend très bien que tout le monde n'en rêve pas.
C'est un choix personnel, ça impacte sa famille, ça impacte sa vie, c'est une décision très lourde. Est-ce que c'est le choix de sa vie ? Moi, je respecte les gens qui disent « moi, j'ai envie d'aller à l'élection présidentielle » et je respecte aussi ceux qui disent « ça ne sera pas moi ».
Le principal, c'est qu'ils nous disent clairement s'il y va ou pas, confie un député, histoire que LR puisse réfléchir, si besoin, à un plan B.
Et autre rendez-vous politique, les universités d'été du Rassemblement National. C'est à Fréjus, ça commence aujourd'hui à 8h15 dans l'interview politique. Nous serons avec l'un des porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. La troisième journée du procès des attentats de janvier 2015. On a beaucoup parlé des absents hier.
La sœur et l'une des meilleures amies d'Ayat Boumediem, femme d'Amélie Coulibaly, sont passées à la barre pour tenter de mieux la connaître. D'ailleurs, elles avaient gardé contact avec elle, Justin Morin.
Pour les parties civiles, Keltoum Boumediene et Saadi savent forcément quelque chose. L'une comme l'autre décrivent d'abord leur joie quand Ayat Boumediene les appelle pour la première fois. Elle leur dit qu'elle est en vie. Nous sommes 4 mois après les faits, en avril 2015. Aux deux, elle raconte son bonheur d'être là où elle est. Sa meilleure amie, qui témoigne voilée, la sent euphorique. Elle lui dit « Ici, Amedi Coulibaly, c'est un bijou de l'État islamique ». À plusieurs reprises, Ayat Boumediene les invite à la rejoindre, mais les deux témoins jurent ne pas savoir où elle se trouve. La sœur d'Ayat Boumediene le répète, jamais elle ne l'aurait imaginée mêlée aux attentats de janvier 2015. Sur la dizaine d'appels qu'elle a reçus, elle est moins bavarde. Le dernier date d'il y a presque un an. À l'écouter, elle se donne simplement des nouvelles. Les témoignages sont frustrants. Maître Metzger tente la corde sensible avec Keltoum Boumediene. « Vous êtes la seule qui puissiez nous aider », implore-t-il. « Elle ne vous a rien dit dans 5 ans. Juste ça va. On ne peut pas vous croire. » Keltoum Boumediene jure pourtant de tout faire pour aider la justice. Mais si les deux femmes maintiennent un lien avec elle, c'est qu'elles gardent espoir. Toutes deux espèrent qu'un jour, si elle est vivante, Ayat Boumediene revienne en France.
Et j'ajoute que le dernier numéro de Charlie Hebdo dans lequel ont été republiées les caricatures du prophète ont été épuisés dès le premier jour. 200 000 exemplaires écoulés, 3 fois plus que d'habitude. Ce numéro est en cours de réimpression.
C'est une tradition. Le premier week-end de septembre est consacré aux associations.
Si par exemple, vous n'avez pas encore choisi vos activités pour cette année, c'est le moment avec ces forums qui, malgré la situation sanitaire, vont se tenir. Comme à Carquefou, c'est près de Nantes. Ce rendez-vous cette année, plus que d'habitude, est une vraie bouée de sauvetage au vu du contexte. Charles Guyard.
Ce forum, il est incontournable.
Pour Jean-Luc Lacarin, le président du judo club de Carquefou, le forum des associations en cette rentrée très spéciale, c'est presque une question de survie.
C'est certainement la clé de voûte de notre reprise.
À la mairie, Gwenaëlle Boukhar-Chappard est, elle, parfaitement consciente que ce rendez-vous qu'elle coordonne est une nécessité pour la cinquantaine de structures présentes, mais aussi pour le grand public.
Ce temps de rentrée, je pense qu'il est vraiment très très important pour que chacun effectivement soit rassuré ou conforté en fait dans le choix de reprendre l'activité ou pas. Les associations ont aussi besoin de faire passer ce message-là, on est prêt à vous accueillir.
Non seulement les associations sont prêtes, mais elles en ont surtout plus que jamais besoin de ses adhérents. D'ailleurs, au judo, c'est simple, la campagne de réinscription lancée en juin fait craindre le pire.
Pour l'instant, on est de l'ordre de 30% de renouvellement. Ça nous inquiète beaucoup. Les autres années, on surfait sur une vague.
Désormais, c'est une autre vague que redoute le président du judo, celle d'une résurgence du virus dans son propre club, synonyme de nouvelle fermeture.
Et là, pour nous, ça serait un coup de grâce. Ah, c'est la mort du club, faut pas se voiler la face.
Alors, pour éviter d'en arriver là, Jean-Luc Lacarin désinfectera totalement les 200 mètres carrés du tatami entre chaque séance, soit 3 à 4 nettoyages quotidiens.
Il faut qu'on fasse barrière. On est des combattants, donc on est là aussi pour lutter.
Carquefou, Charles Guyard, Europe 1.
Le festival de jazz à la Villette a débuté hier soir à la Philharmonie de Paris.
Les artistes étrangers ont presque tous renoncé, ce qui a permis à Angèle Châtelier de découvrir le jazz à la française.
Le trio britannique Gogo Penguin devait jouer au festival Jazz à la Villette. La saxophoniste chilienne Melissa Aldana aussi. Mais entre l'avion et les quarantaines, ils ont dû annuler. Cette année, la moitié des artistes programmés sont français. Alors qu'habituellement, l'ADN du festival, c'est plutôt les artistes étrangers. Ce que rappelle Vincent Anglade, programmateur de Jazz à la Villette.
Bien sûr, c'est tant mieux et ça nous a permis de prendre un peu le risque de programmer des artistes français sur des plus grosses scènes. Par exemple, le groupe qui ouvre le festival est constitué de 4 pianistes francophiles n'auraient pas forcément joué dans la grande salle de la Philharmonie de Paris sur une édition habituelle.
Parmi eux, le pianiste Baptiste Trottignon, bien heureux de jouer dans la prestigieuse salle Pierre Boulez. Mais il ne veut pas s'habituer à des programmations uniquement françaises. Le jazz, par son histoire, c'est un mélange de cultures.
La France a souvent été une terre d'accueil pour plein de musiques du monde, ce qui est génial. Le jazz américain notamment, etc. Mais l'inverse, c'est loin d'être vrai souvent. Donc, ma foi, pourquoi pas momentanément, effectivement, dire bon, bah voilà, on va essayer de profiter de chez nous. C'est comme de rester à la maison, c'est pas forcément mal non plus quelque temps.
Mais la malienne Fatoumata Diawara, qui habite en Italie, a notamment fait le voyage. C'est elle qui clôturera cette 18e édition du festival Jazz à la Villette le 13 septembre.
C'est de la contrebasse qu'on entendra ce soir à la Philharmonie avec Célène Saint-Aimé, c'est à 18h.
Et puis un autre festival à Deauville, le festival du film américain, sans les Américains évidemment, privés de voyage puisqu'ils sont beaucoup restés aux États-Unis à cause du Covid. Le festival de Deauville qui du coup reprend pas mal de films du festival de Cannes qui lui, bien sûr, vous le savez, a été annulé. Merci Lénaïque Monnier.